commentaire d'aujourd'hui des Actes des Apôtres, je n'ai trouvé ce sens-là. Le seul, en plus des pères de l'Église, bien entendu, hein, le seul chez qui j'ai trouvé le sens de ce pardon, c'est Don Célestin Charlier, de Marsou, au début de ce siècle, avant la guerre, qui a écrit pas mal au sujet de la Bible, au sujet du rapport entre les deux testaments. Lui a bien vu que le discours d'Étienne n'était pas un discours de condamnation, mais un discours de salut. Mais à travers la révélation du péché. Sinon, il n'y a pas de ça. Il faut qu'on montre la profondeur du péché pour qu'on puisse découvrir la profondeur du salut. Et alors, vous avez le pardon accordé par Jésus, ou Étienne et Jésus sont deux figures qui se confondent. Et en même temps, un petit clin d'œil vers le persécuteur qui est déjà présent au moment où on l'appelle d'Étienne, Shaul. On va reprendre son histoire au chapitre 9, mais il est déjà présent. Il se pose déjà des questions. Effectivement, Shaul va se poser cette question fondamentale. Moi, je n'ai pas connu Jésus, et pourtant je le vois. Je le vois dans la présence d'un fidèle, d'un croyant. Alors, est-ce que Jésus et les croyants ne fait qu'un? C'est au départ de la théologie de Paul sur le corps du Christ. L'établissement de l'Église et de Jésus, c'est tout un, et qu'il ne faut pas faire de différence, il est même là. Et c'est déjà prévu. Voilà, la réponse est ici.
Jean, tout ce que Luc écrit, il écrit dans un monde où Dieu est une réalité. Qu'elle soit le Dieu d'Israël ou les dieux
des autres,
mais Dieu est une réalité. Et dans un monde comme aujourd'hui, où Dieu est mort ou n'existe pas, qu'est-ce que ça peut avoir un sens d'une proclamation de l'Évangile?
Ah, je dirais précisément parce que pour que Dieu est mort et qu'il n'existe pas, il faudrait le faire advenir.
Oui, mais il y a les deux, il y en a qui le disent mort et d'autres qui disent carrément qu'il n'existe pas.
Exactement. Donc c'est intéressant de pouvoir le dire aujourd'hui, parce que les dieux qui le disent mort sont ceux qui l'ont mis mort.
Oui.
C'est vrai que l'athéisme d'aujourd'hui n'est pas l'athéisme d'autrefois. Autrefois, c'était un athéisme religieux. Maintenant, l'athéisme est un athéisme militant et beaucoup plus négateur. Mais en même temps, il faut s'interroger sur l'impact de cette négation. Est-ce que Dieu est mort ou bien est-ce que je dis que Dieu est mort? Autrement dit, est-ce une réalité objective ou bien est-ce une réalité subjective? Quel Dieu est-ce que j'ai fait mourir? Donc ça peut aussi faire entamer la question de Dieu. Alors que nous avons des quantités de Dieu. Que ce soit le sexe, le plaisir, le milliard, l'argent, hein, nous avons des quantités de Dieu. Mais on ne les appelle plus idoles. Et donc, ce qui manque véritablement aujourd'hui, c'est le sens de l'expérience de Dieu. Pas de l'idée de Dieu. Je crois que cette idée n'est pas absente. Mais on ne sait pas ce qu'on met derrière l'idée de Dieu, derrière le mot Dieu. Mais ce qui manque, c'est quelle est l'expérience que j'ai de Dieu. Et quand je dis que Dieu est mort, je voudrais savoir de quel Dieu je parle. J'ai donc l'idée de Dieu si je dis que Dieu est mort. Alors, essayons de creuser cette idée de Dieu. Mais c'est vrai que c'est très difficile, c'est pour ça qu'il y a une évangélisation qui est préalable à la catéchèse la plupart du temps. Une évangélisation, c'est-à-dire, essayons de découvrir un peu ce qu'on met sous le mot. Mais malheureusement, on parle généralement comme si on savait de quoi on parlait.
Mais oui.
Les uns et les autres. On dit Dieu est mort. Qu'est-ce que c'est que Dieu et qu'est-ce que c'est que la mort? Et dire « Eh, qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc, ce qui est souvent nécessaire aujourd'hui, et malheureusement on le fait tomber de plus en plus, c'est la philosophie. Il y y a une réflexion philosophique qui est extrêmement importante. Et une réflexion qui va jusqu'à la métaphysique, c'est-à-dire qui va jusqu'à se poser la question fondamentale, pourquoi je vis, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que c'est que être ou ne pas être, avant même de se poser toutes ces questions. Quand vous proposez cela aux gens, ils freinent, hein ?
Il n'est pas de faire.
Parce que c'est la même trop loin. Alors on préfère mettre la main sur Dieu. En croyant savoir de quoi on parle. Bon, je vais faire les décisions. Je vais vous dire un peu ce que nous avons vu. Voilà comment il s'est trouvé. C'est un tout autre langage. C'est un langage physique. Donc c'est un langage liturgique, en quelque sorte. Nous sommes au début de l'Épître aux Éphésiens. Et en fait, il redit ce que nous avons essayé de dire en mettant les premiers chapitres des Actes et les premiers chapitres de l'Évangile en parallèle. D'abord, il a une adresse, comme toujours dans les Épîtres. Mais cette adresse, je vous la lis comme elle se trouve, avec un blanc. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, c'est l'expression que vous avez toujours, aux saints et fidèles en Jésus-Christ, et depuis le 4e siècle, nous avons des manuscrits qui disent aux saints à Éphèse et fidèles en Jésus-Christ, voyez. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit cela, il nous met, comme je vous le disais tout à l'heure, au cœur de l'amour du Père et du Fils. Il ne parle pas de l'Esprit Saint, mais c'est une adresse, ou bien une adresse passe-partout, qui a été reprise pour cette lettre encyclique qu'il n'avait pas. Ou bien c'est effectivement une reprise d'une adresse de Paul, mais sans mention de la communauté en question. C'est la question dont je vous ai parlé hier, et je crois que cette lettre est postérieure aux Colossiens, qu'elle est peut-être, je crois qu'on l'a mise généralement chez Lire, notamment on l'a mise peut-être un peu trop tardivement, elle devrait être des environs de 60. Peut-être antérieure aux Actes des apôtres, peut-être. C'est tout à fait plausible. Probablement de quelqu'un de très proche de Paul. Je crois que la théologie qui est déployée ici est une théologie tout à fait paulinienne, avec peut-être déjà certaines ouvertures qui iront plus loin, qui approfondiront la pensée de Paul. Mais c'est pour ça que je dis Paul généralement, parce que c'est tout à fait paulinien, me semble-t-il. Et c'est le déploiement de sa théologie du corps, du Christ. Et voici comment il s'exprime. C'est une bénédiction. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Et on a, le Père Lyonnais notamment, il y a quelques années, il y a déjà une trentaine d'années, a été frappé combien cette bénédiction de Saint Paul est proche d'une prière juive que l'on trouve encore dans les prières du matin, dans le Sidmo, c'est-à-dire dans l'office du matin des Juifs. Et cette prière s'appelle Be'ahava, dans l'amour. Et c'est vrai que cette prière a été probablement confectionnée par Paul, par l'Église primitive, par un disciple de Paul, je ne sais pas qui pourra le dire, mais sur le patron de cette prière juive. Et de nouveau, c'est intéressant parce que ça montre la continuité. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Intéressant, vous voyez cette vision. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Nous dirions, il nous a choisis en nous faisant sortir d'Égypte, c'est ce que nous aurions tenté de dire. Non, ça fait partie du dessein de Dieu. Alors, il nous a choisis pouvez dire le peuple d'Israël, vous pouvez dire l'Église, vous pouvez dire chacun d'entre nous. Il nous a choisis. Le « nous » est celui qui lit le texte. Il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Et il termine, comme la prière juive, avec toujours ce refrain, pour que nous soyons dans l'amour. Soyons saints et irréprochables dans l'amour. Ça, c'est vraiment la prédestination. C'est-à-dire à quoi Dieu nous destine. L'espérance de Dieu pour le peuple d'Israël, pour le peuple de l'Église, pour l'humanité entière, pour chacun d'entre nous. Il nous a prédestinés. Voilà le terme qui arrive. Mais qui n'est pas pris dans le sens de Luther ou surtout de Calvin. Calvin disait, nous sommes dès le départ, comme d'une manière tout à fait fatale, prédéterminés au bien ou prédéterminés au mal. Donc nous sommes, hein, ça c'est Calvin, nous avons c'est ce qu'il appelait la double prédestination. Nous sommes ou bien prédestinés à être bons, à être sauvés, ou bien prédestinés à être damnés. Tout à fait. Vous êtes condamné au Concile de Trente, hein, vous n'en faites pas. Tout à fait faux. Nous sommes prédestinés à être, comme il nous dit, à être pour lui des fils adoptifs. Fils adoptifs par Jésus-Christ. Donc, être fils dans le Fils comme nous l'avons. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. C'est ce qui est dit de Jésus et ce qui est dit après lui de chacun d'entre nous. Ainsi l'a voulu sa bienveillance, et nous retrouvons encore une formule de la prière juive, à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais traduire, pour que nous soyons le signe vivant de son amour manifesté. La louange, c'est être le signe vivant, être louange à Dieu, c'est-à-dire comme était Étienne, comme l'étaient les disciples, les apôtres, hein, manifester la présence de Dieu. Et la gloire, c'est toujours le rayonnement de l'amour, le rayonnement de la manifestation concrète de la présence divine. À la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Jésus baptisé lui aussi, prière. Nous retrouvons, mais dit autrement, ce qui était présent, mais de manière plutôt historique, dans l'Évangile et dans les actes. En lui, par son sang, nous sommes délivrés, nous sommes sauvés. Donc en lui, nous sommes placés dans le cœur de la Trinité. En lui, encore que ça vienne en nous, hein, c'est un chemin à faire. En lui, nos fautes sont pardonnées, et de nouveau, une formule de la prière juive, selon la richesse de sa gloire, de sa grâce, pardon. La richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, la richesse de sa grâce, bien entendu. Nous l'a prodigué. À charge pour nous de la vivre, mais il nous l'a prodigué. Nous ouvrons à toute sagesse et intelligence. La sagesse et l'intelligence, c'est l'Esprit Saint, dont parlait Étienne à propos des prophètes de l'Ancien Testament et de lui-même. Nous ouvrons à toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Voilà que le terme est lâché. Un terme important, le mystère, le sort. C'est toute une théologie qui est présente dans les livres de sagesse, le mystère, présente surtout dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, c'est la révélation du mystère de l'histoire. L'histoire a un sens profond, et c'est dans le regard de Dieu qu'on découvre le mystère, c'est-à-dire l'éclairage de l'histoire. Un mystère, nous le définissons généralement comme ce que nous ne pouvons comprendre, mais ce que nous devons croire, parce que Dieu nous l'a fait connaître. C'était l'expression que j'ai trouvée autrefois dans mon petit catéchisme. Qu'est-ce qu'un mystère? c'est une vérité que nous pouvons comprendre et que nous devons croire parce que Dieu nous l'a fait connaître. C'est parfaitement exact. Mais je ne sais pas ce qui est dans ce qui était dans mon imagination d'enfant quand j'entendais ça. Le mystère, c'est la réalité profonde et donc tout à fait objective qui éclaire notre chemin. C'est vrai que nous ne pouvons pas mettre la main dessus, c'est ça, nous ne pouvons comprendre. Et quand on dit que nous ne devons croire, ben, ça veut dire que ça illumine terriblement notre vie, parce que ça nous la situe dans la vérité. Parce que Dieu nous l'a fait connaître. Parce que c'est lui qui nous l'a révélé. C'est tout à fait. Alors, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Bon plaisir, dessein de Dieu, sagesse de Dieu ou volonté de Dieu, ce sont différentes facettes de la même réalité. C'est-à-dire son projet. Son projet créateur et rédempteur, comme nous l'appelons. Le dessein bienveillant, voilà, il explique le dessein, hein, le chemin de l'histoire, bienveillant, qu'il a d'avance arrêté en lui-même. Dieu ne peut pas faire autre chose qu'aimer. Et il arrête d'avance en lui-même, hein, qu'il aime. Pour mener les temps à leur accomplissement. Les temps, une autre manière de dire l'histoire, la réalité de l'histoire, l'homme vit dans le temps et l'espace. Pour mener les temps à leur accomplissement. L'accomplissement n'est pas un bout, bon, il peut peut-être appeler un but, mais l'accomplissement est une plénitude. Voilà encore un mot que j'ai lâché et qui va venir dans la suite du texte. Quel est maintenant, hein, ce dessein bienveillant de Dieu, ce mystère de sa volonté, réunit l'univers entier sous un seul chef, le Christ? Je vais dire ça autrement. Faire en sorte que toute l'humanité découvre jusqu'à quel point elle est filiale, elle est fille et fils de Dieu. Et c'est en Christ que nous allons découvrir le Fils bien-aimé. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Ça exprime une totalité. Cieux et terre, hein, expriment la totalité de la création. En lui aussi. Donc il développe ce que Saint Pierre fait dans son discours, il n'y a pas d'autre nom dans lequel nous devions être sauvés. En lui aussi. Nous avons reçu notre part. Ou, hein, comme le dit la note de la Bible de Jérusalem, qui est utile, hein, lorsqu'elle nous dit littéralement le sens du texte, en lui aussi, nous avons été désignés par le sort. Et ça, nous retrouvons le terme désigné par le sort, qui était dit à propos de Zacharie, le sacerdoce ancien, qui est dit à propos de Matthias. Désigné par le sort, hein, signale évidemment ici, c'est Dieu qui nous donne notre vocation, c'est pas nous-mêmes. En lui aussi, nous avons reçu notre part, notre lot. Suivant le projet, autre terme, le dessein de salut, le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté. Ça pourrait être très mal pris, ce gré de sa volonté, comme si c'était quelque chose d'arbitraire. Mais comme c'est une volonté amoureuse, ça ne peut être que qui mène tout selon son projet d'amour. Il ne sort pas de son projet amoureux. Et alors, ce mystère dans lequel nous trouvons notre part, c'est quoi finalement? Nous avons été prédestiné, donc notre vocation à chacune et à chacun, c'est d'être prédestiné, c'est-à-dire porté par l'espérance de Dieu lui-même dans le pays, pour être à la louange de sa gloire de nouveau, pour être manifestation de son amour réel, concret, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. Alors, note de la tombe qui est aussi intéressante. Certains pensent que les versets 11 et 12, ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ, certains pensent que les versets 11 et 12 introduisent déjà l'idée d'Israël. Hein, c'est eux qui ont songé et attendu le Messie. Déjà l'idée d'Israël et des nations qui tiendra une si grande place dans l'Épître. Le nous, associant à l'auteur et judéo-chrétien, ferait contraste avec le vous du verset 13, qui désignerait l'électeur pagano-chrétien. L'espérance dans le Christ, le Messie, se rapporte dans ce cas à l'attente d'Israël. D'autres, et notamment la traduction qui a été donnée, estiment que la bénédiction dans son ensemble concerne tous les chrétiens. Et qu'elle s'achève, comme souvent, par une brève interpellation, d'où l'apparition du « vous ». Je crois que cette deuxième interprétation est dans le sens du texte, même si la première n'est pas fausse. Dans ce cas, la distinction entre Israël et les nations n'interviendrait qu'au chapitre 2. Elle est déjà présente en filigrane, mais elle n'est exprimée qu'au chapitre 2. Et les mots « espérés d'avance » expriment alors l'attente de l'accomplissement final propre à tous les chrétiens. Et c'est vrai, je crois que c'est aussi juste. Cette attente, nous espérons d'avance en l'accomplissement de ce que nous avons à être dans le plan de Dieu. Et nous sommes déjà, en espérant d'avance, en train de le réaliser. Nous sommes en arbre, en marche, vers notre vocation. Mais c'est lui qui la prend en charge en nous, Jésus. Et je crois que ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ, c'est à la fois un petit clin d'œil vers Israël et les nations, et c'est un petit clin d'œil vers chacun de nous qui sommes encore avant le Christ. Tant que nous ne sommes pas devenus le Christ comme les premiers apôtres ou disciples, nous sommes encore avant lui. Nous devons encore attendre. En lui encore, vous, nous, expérience de Paul, vous, notre expérience a ajusté par l'expérience de Paul. En lui encore, vous avez entendu la parole de vérité. Il ne dit pas la parole de la grâce, la parole de vérité. C'est un peu plus joli. L'évangile, là, qui fait la même équation que Luc, la parole de la grâce, c'est l'évangile qui vous sauve. L'évangile étant la présence de Jésus lui-même. En lui encore, vous avez cru et vous avez été marqué du sceau de l'Esprit promis. Nous arrivons aussi à cette présence de l'Esprit. Mais elle intervient en fait partout. L'Esprit Saint, qui est son nom propre, accompte, âtre, plutôt que gage. Certaines traductions disent gage, c'est plus que gage. C'est déjà un début, c'est déjà le don commencé. Accompte n'est peut-être pas mauvais, un rabot. Accompte de notre héritage, nous sommes déjà en train de recevoir ce que nous serons, c'est-à-dire fils de Dieu, jusqu'à la délivrance finale, où nous en prendrons possession à la louange de sa gloire. Et le terme de prendre possession renvoie évidemment à l'entrée en terre promise du peuple d'Israël. Donc voilà, si vous voulez, le tableau de la prédestination, mais qui nous est dite en termes qui nous paraissent abstraits, en termes de sagesse, comme une grande fresque, mais une grande fresque où on dirait qu'il a atténué toutes les images. Nous n'avons pratiquement pas d'images concrètes, temporelles. C'est un discours qui se veut en quelque sorte un peu abstrait. Mais il nous raconte la même chose que le début de l'Évangile, les quatre premiers chapitres, et le début des Actes des Apôtres, les sept premiers chapitres. Il y a cependant une chose qui ne se trouve pas encore, qui se trouve présente, mais peut-être pas, qui n'est pas aussi soulignée que dans l'Évangile ou dans les Actes. C'est ce passage par la souffrance, mort et résurrection. Cependant, c'est présent. C'est présent dans le verset 7, en lui, par son sang, nous sommes délivrés, en lui, nos fautes sont pardonnées, selon la richesse de sa grâce. Mais il ne marque pas ce qui est onéreux. Le passage par la mort, par la souffrance, il ne souligne pas. Comme le fait Saint Luc. Saint Luc ne nous le cache pas. Pourquoi ? Parce que Saint Luc le regarde dans le concret de l'histoire. Mais ni dans l'évangile de Luc, ni dans les Actes des Apôtres, Luc ne décroche de la réalité sensible historique. C'est toujours en nous déroulant le film de la vie de Jésus et en nous déroulant le film du début de l'Église primitive. Et c'est important cette référence à l'histoire. Et on peut comprendre que et l'Évangile et les Actes des Apôtres ont été écrits après un texte comme celui de Paul, ici. Précisément parce que ce texte de Paul nous apparaît un peu comme intemporel. Et il y aurait danger à le regarder comme une gnose. Effectivement, à la fin du 1er siècle, apparaissaient déjà des traces de gnose. Qu'est-ce que c'est que la gnose ? C'est une sorte d'interprétation idéologique du mystère du salut. Vouloir en faire un enseignement intellectuel, qui décroche un peu de l'expérience. Et c'est comme ça que l'on peut voir, en tout cas dans le trajet de l'Église primitive, après des expressions comme celle de Paul, qui nous mettent sur un plan une découverte du mystère du salut comme une grande fresque atemporelle, je ne dis pas intemporel, mais atemporel, sans manifester exactement la place du temps et de l'espace, on peut comprendre que des gens comme Luc ont voulu redire la même expérience, mais en termes concrets, en référence à l'histoire de Jésus et à l'histoire de ce qui s'est vécu dans la communauté de Jérusalem. En tout cas, moi je vois bien les choses ont pu se passer de la sorte. Et vous savez que le judaïsme non plus n'a pas été indemne, pas plus que le christianisme au départ. Ils n'ont pas été indemnes d'une certaine gnose. On a voulu faire du mystère chrétien une sorte de système intellectuel, système idéologique. Et dans certaines parties de la Mishnah d'abord, et puis du Talmud ensuite, vous avez comme cela une sorte de philosophisation, pourrais-je dire, du mystère de salut, du salut en Israël. Et Marcion, par exemple, ou d'autres, au 1er siècle, les gnostiques, les Valentiniens, etc., au 2e siècle et au 3e siècle, vont essayer d'échapper en quelque sorte à l'expérience concrète du salut en faisant des notions, un système de notions. Le danger, si j'en parle, c'est parce que le danger est aussi présent aujourd'hui dans un enseignement chrétien où, suivant la mentalité du temps, le christianisme est une philosophie parmi d'autres, c'est-à-dire un système de pensée, une idéologie, et éventuellement une morale adaptée, évidemment rétrograde, où on vous donne la mesure où on voit les choses comme cela, et où l'enseignement de la religion consiste dans la tradition de cette gnose. Nous sommes à côté de la plaque, évidemment. C'est-à-dire que nous loupons la réalité la plus profonde, qui est l'expérience de Dieu, et la chose la plus difficile. On n'enseigne pas l'expérience de Dieu. On peut aider à la faire, aider à découvrir le sens et la profondeur de la prière, mais on n'empêche pas, on n'enseigne pas à proprement parler l'expérience de Dieu. Mais autre chose, La gnose d'aujourd'hui n'est pas tellement un système philosophique. Elle peut l'être dans des systèmes comme le Nouvel Âge ou d'autres choses du même type. Mais la gnose d'aujourd'hui est imaginative. Elle passe par les images, comment dire. Elle passe par les images, certaines images, certains mondes d'images, qui sont souvent le fruit d'idéologies, et qui nous sont donnés dans les médias. D'où l'importance de discuter des images, de les percevoir, de voir ce qui passe à travers elles, d'en dégager la symbolique, et de voir en quel sens elles sont proposées et en quel sens elles sont assumées, ou non. Parce que l'image chasse l'autre. Alors, c'est intéressant donc de voir combien la référence à l'Évangile est utile. Mais attention, est-ce une référence à l'Évangile, c'est-à-dire au texte, ou à la manière dont nous imaginons l'Évangile, c'est-à-dire ce qui est dans notre tête, et qui nous est évidemment, qui est donné aussi aux enfants, à travers les bandes dessinées. Mais comme les bandes dessinées sont de tout type, on peut évidemment confondre Batman avec Jésus. On peut passer de l'un à l'autre sans coup férir. C'est dans le même monde d'image. Mais l'essentiel, c'est toujours de prendre distance par rapport aux images qui nous sont données. Dans leur deuxième section, maintenant, pour que nous abordions cela.
Mais ramener une chose sous un seul chef de Christ, c'est beaucoup plus vaste.
Ah, nous allons
que
voir.
De dire simplement que nous sommes tous fils en Dieu.
Ah,
un fils cosmique qui est visé vraiment.
Nous allons voir, justement. C'est découvrir l'importance de la parole. Mais j'ai besoin pour cela de voir ce qui est révélé. Comment Jésus nous le révèle-t-il? Parce que si vous avez été marqué du sceau de l'Esprit promis, à compte de notre héritage, jusqu'à la délivrance finale, où nous en prendrons possession à la louange de sa gloire. Et alors il va se situer. Il va se situer. Je n'ai pas encore lu ce passage, qui est en fait intermédiaire. Voilà pourquoi, il y a la conclusion de cet hymne. Moi aussi, depuis que j'ai appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints, là, il y a quand même une référence à l'histoire. Je ne cesse de rendre grâce à votre sujet. Il passe de la bénédiction à l'action de grâce, ce qui est le canevas d'une prière juive. Je ne cesse de rendre grâce à votre sujet lorsque je fais mention de vous dans mes prières. C'est ce que nous faisons tous, nous rendons grâce pour tout homme que nous rencontrons. Nous rendons grâce parce que chacune, chacun est présence de Dieu. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, ici le voilà qui s'élève au cœur du mystère. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, à qui appartient la gloire, qui est au départ, la gloire de cet amour manifesté, vous donne un esprit de sagesse. C'est-à-dire vous rendre témoin, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. C'est le terme de l'expérience. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel. Non pas pour que vous sachiez quelles sont toutes vos limites, mais comment il ouvre vos limites. À son espérance, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire en faisant cette action de grâce? Au fond, il nous a manifesté, en fait, ceci est presque le prologue de saint Jean. Il nous a manifesté l'action de Dieu dans l'histoire, par Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. Et maintenant, il nous montre la réponse de foi qu'il est en train de susciter dans l'âme, dans le cœur de ceux qui font l'Église. pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints. Il a déjà parlé de l'héritage, hein, au verset 14, si je dis bien. Quelle immense puissance il a déployée en notre faveur à nous les croyants. Donc nous découvrons en quelque sorte son mystère dans sa générosité initiale. Il les a mises en œuvre dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux, et nous retrouvons la vision d'Étienne. Lorsqu'il l'a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux, c'est là que nous nous situons, bien au-dessus de, nous reviendrons sur ce terme, toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté, qui peuvent être des puissances angéliques, qui peuvent être des puissances qui sont en route dans le monde, et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Nous reviendrons là-dessus cet après-midi, parce que nous n'aurons pas le temps ce matin. Oui, il a tout mis sous ses pieds. Nous avons vu que toute la terre est le marchepied de ses pieds dans le discours d'Étienne. Nous retrouvons des formules d'un côté à l'autre. Là, il faudrait faire le travail de façon beaucoup plus précise que nous n'avons le temps ici. Et il l'a donné au sommet de tout pour tête à l'Église. On a quelque chose de nouveau. Il parle du corps du Christ et maintenant il parle de tête. Intéressant ce terme de tête que dans les Actes des Apôtres nous trouvons sous le nom de pionnier. Celui qui ouvre la brèche, l'initiateur, qu'il a donné pour tête à l'Église, qui est son peuple. Donc à la reprise de ce que nous trouvons au chapitre 12 de Romains, au chapitre 12 de 1 Corinthiens. Pour tête à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement. Qu'il n'y a de véritable plénitude, la plénitude où nous pouvons accéder, notre accomplissement, notre épanouissement, comme nous disons, c'est dans la plénitude de Dieu. La barre est posée très haut. Nous sommes faits pour nous ouvrir à la plénitude de Dieu. Mais en Jésus, plénitude. En découvrant comment il est la manifestation de l'amour de Dieu qui fait irruption dans ce corps de l'Église dont il est la tête. Ici, c'est déjà tout à fait programmatique. C'est l'action de grâce qu'il va développer, que Luc va développer dans son évangile d'une part, dans les Actes des Apôtres. L'après-midi, on sait déjà, on va commencer ça ce matin, mais nous n'aurons pas le temps. L'après-midi, nous allons voir la deuxième séquence, c'est-à-dire, deuxième séquence des deux côtés, comment on écoute la parole. C'est-à-dire la deuxième partie de cette action de grâce. Comment nous arrivons à la foi? Et à quel point nous arrivons? Voilà. Excusez-moi pour le parallélisme est tout à fait clair, puisqu'il se situe autour de Pierre et le centurion. Les deux côtés, vous avez les mêmes figures. Même si le centurion des Actes n'est pas exactement le même que celui de l'Évangile. Mais ils symbolisent l'un et l'autre, mais un juif proche de Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui vient à partir de son judaïsme, qui vient à Jésus, il devient le porte-parole des 12, le porte-parole par excellence au début des Actes, et puis le centurion, qui est le type d'un romain, d'un païen. Et cependant, nous voyons au chapitre 7 de l'Évangile, où précisément ce centurion apparaît, nous voyons cette phrase, au chapitre 7, verset 9, lorsque le centurion a dit qu'il avait l'expérience de la parole, Moi aussi, je suis un homme rangé sous une autorité, ayant sous moi-même des soldats. Je dis à celui-ci, fais route, il fait route. À un autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais ceci, et il le fait. Donc il a l'expérience d'une parole puissante. Une parole qui fait ce qu'elle dit quand elle est adressée à quelqu'un, à un subalterne, à quelqu'un qui est sous son autorité, comme il le dit. Or, ayant entendu ceci, Jésus l'admira. Littéralement, Jésus s'étonna. Et s'étant tourné à la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, pas même en Israël, je ne trouvais autant de foi. » Bon, la manière dont la phrase ici est libellée, « Pas même en Israël, je n'ai trouvé autant de foi », alors que Jésus appelle ses disciples, ceux qui sont plus proches de lui, les mini-croyants, hommes de peu de foi, mini-croyants. Donc, ça signifie quand même que Jésus montre que la foi peut surgir dans n'importe quelle vie. Il n'y a personne qui en a le monopole. En Israël, on n'a pas le monopole de la foi en Dieu, même si c'est là que la tradition montre que l'expérience de Dieu est née et s'est transmise. Et étant retourné à la maison, ceux qui avaient été mandés trouvèrent le serviteur en bonne santé. Donc, si nous prenons cet évangile au chapitre 5 à 7, plus exactement Luc 5 à 9, et la deuxième section de l'évangile, nous découvrons quoi ? Nous découvrons ce que j'ai appelé dans la traduction, aux écoutes de la parole. Il y a différentes manières d'écouter, suivant, hein, et c'est la question que l'on posait ce matin, suivant que l'on croit déjà en Dieu, ou suivant que l'on vient d'un paganisme plus ou moins croyant. C'est vrai qu'il est différent de notre athéisme militant d'aujourd'hui, et cependant, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a une tendance à une religiosité, comme on l'appelle, qu'elle soit populaire ou non, une sorte de religiosité dont il semble que l'homme ait un besoin plus ou moins profond. Et donc, aux écoutes de la parole, nous avons traduit ici la parole à Israël, le premier, la parole à Israël. Et donc, le type d'Israël, c'est Pierre. C'est-à-dire un disciple. Et nous avons d'abord une scène qui vous raconte une histoire avec Pierre. Et Pierre est pêcheur sur le lac. Jésus s'invite dans sa barque. Et quand Jésus se trouve tout contre Pierre, Pierre dit, éloigne-toi de moi, une frayeur l'avait étreint, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, Seigneur. Plus nous sommes proches de Jésus, plus nous découvrons notre péché. Pierre se trouve tout contre Jésus dans la barque, tout petit territoire, et là il découvre la distance infinie qu'il y a entre le Seigneur, comme il l'appelle, et lui-même le pécheur. Non seulement pécheur sur le lac, mais pécheur. Donc voilà la manière dont un juif voit les choses. Plus il se trouve proche de Dieu, plus il découvre son péché. Et c'est intéressant pour nous aussi de savoir cela. Que plus nous allons au fond de l'expérience de Dieu, plus nous avons en même temps l'expérience de la distance que nous mettons entre lui et nous. Comment nous le mettons en quelque sorte au bord. Et après cela, nous avons une démarche à partir du chapitre 5, et donc tout le chapitre 5, en fait, la démarche que fait Israël, puisqu'il se découvre pécheur, il faut un pardon. Il faut qu'il découvre que Dieu pardonne. Et donc Israël passe par le pardon. Expérience que vous retrouvez constamment dans l'histoire d'Israël. Ces demandes de pardon, ces psaumes qui demandent le pardon, sont là tout le temps. À croire que Israël est toujours préoccupé de son péché. Et puis, non. C'est parce qu'aujourd'hui, on veut éviter le plus possible de parler de péché, de parler éventuellement de faiblesse. Hein. Mais le péché, c'est-à-dire d'avoir vraiment lutté contre Dieu. On n'aime plus entendre cela. Évidemment, si Dieu n'existe plus ou s'il est mort, alors ça ne signifie pas grand-chose. Tandis qu'Israël part toujours de cette expérience de Dieu, et donc il a besoin de cette expérience du pardon. Et à partir de ce pardon, il doit découvrir combien il doit être renouvelé par Dieu. Il y a un renouveau, mais renouveau. C'est l'expérience d'Israël, hein, qui est toujours, et il a les prophètes qui le lui disent constamment, qui est toujours en reste, qui est toujours infidèle à l'alliance que Dieu a faite avec lui. Et donc il doit demander pardon, mais en même temps, il est toujours en attente d'une nouvelle alliance. Dieu doit constamment renouveler son alliance, et c'est ça l'effet du pardon. Et on vous explique quelques figures de la nouveauté. Le repas, par exemple. Et puis, on vous parle aussi du sabbat. Le sabbat qui est considéré comme une restauration. Le sabbat est une création, ou une récréation. Le sabbat ultime est une récréation.
Pardon, Jean.